Donc pour parler d'Omnicanal avec nous, j'ai Benjamin qui nous vient de Digital Native Group et qui va échanger avec nous sur ces sujets-là. Je fais les présentations très rapides parce que je veux rentrer vite dans le vif du sujet. Véronica qui est en charge du CRM et du digital marketing chez Bash. Et enfin Kevin qui est en charge des partenariats chez OneStock. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de creuser un petit peu ce que ça veut dire que l'omnicanal. C'est une problématique qui n'a fait globalement qu'augmenter dans les dernières années. On voit, je pense, un vrai changement qui s'est fait en particulier dans les 5 dernières années sur ces problématiques. On arrive à plus de maturité sur le marché. Et on arrive, je pense, depuis en particulier 3 ans, à un vrai carrefour. Pourquoi ? Parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on voit la part du e-commerce augmenter, la part du e-commerce dans les achats des Français augmenter. En revanche, globalement, depuis 3 ans, elle se stabilise. Elle se stabilise et on imagine qu'on arrive vraiment donc, à une phase de maturité dans le marché où on a des usages qui se font en ligne, des usages qui se font en magasin. Et maintenant, la question, c'est de se demander comment est-ce qu'on coordonne correctement les deux. On va en parler un petit peu plus en détail, mais c'est aussi un moyen d'améliorer son chiffre d'affaires et en particulier la LTV de nos clients. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui de proposer des expériences qui soient les plus omnicanales possibles. Globalement, ce que moi je vois d'intéressant aussi, et on va le creuser, c'est qu'il y a des marques qui viennent à l'origine du digital qui ont naturellement passé un tournant omnicanal, mais qu'aujourd'hui, des entreprises beaucoup plus brick and mortar sont en train aussi de faire le chemin de l'autre côté, et souvent en appliquant des stratégies qui sont assez différentes. Et le croisement entre les deux, c'est aussi peut-être ça, la recette du succès pour une stratégie omnicanale gagnante. On va essayer de creuser ça du coup dans les prochaines minutes, avec un petit peu d'eau. Et on va se demander qu'est-ce qui sera la vraie bonne solution dans les prochaines années pour développer une stratégie efficace. Alors peut-être qu'avant de commencer à se projeter dans l'avenir, on va se demander un petit peu aussi d'où on vient. Et ma première question pour vous, ce serait de savoir si aujourd'hui c'est plus simple de devenir une marque omnicanale qu'il y a 5 ans. Et peut-être, alors comme Ben, tu nous sers un petit peu d'eau, je vais peut-être commencer par Véronica. Est-ce que tu as des éléments à nous raconter là-dessus ?
Oui, alors est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'être omnicanal par rapport à il y a 5 ans ? Je dirais oui. Nous, il y a 3 éléments qui ont été clés pour devenir omnicanal et on a vraiment vu une transition sur ces 4 dernières années avec une accélération pendant et après Covid. Le premier élément qui nous permet en fait à devenir omnicanal, c'est la donnée. Nous, il y a 5 ans, chez Bash, on avait vraiment 2 bases de données totalement distinctes. On n'était même pas capable d'identifier un client omnicanal qui achetait et sur le retail et sur le web. Donc ça, c'était la première étape. Et en fait, quand on a réussi à unifier toute la base de données, il y a eu un constat qui était sans appel, c'est qu'un client omnicanal, ça pèse beaucoup quand même dans le chiffre d'affaires. Pour vous donner des chiffres récents sur Q1 2024, la LTV de nos clients omnicanaux est plus 84% supérieure à la LTV normale, enfin d'un client monocanal. Donc ça a été le premier élément qui nous a permis en fait d'accélérer l'omnicanalité chez Bash. Pourquoi c'est plus simple aussi, c'est qu'on a des mindsets qui ont changé. D'un point de vue client, mais surtout dans les équipes. Les équipes étaient vraiment silotées à mon arrivée chez Bash il y a 6 ans. Il y avait vraiment une équipe retail et une équipe e-commerce. Et pour en fait avoir certains use cases qu'on appelait omnicanaux, c'était compliqué parce que les responsables magasins ou toutes les équipes magasins avaient vraiment pour objectif de répondre à leurs objectifs qui étaient du coup uniquement retail et d'aller faire du chiffre d'affaires incrémental pour la société n'était pas du chiffre incrémental sur leur périmètre. Donc c'était assez compliqué en termes de discours en interne et elles ne voyaient pas forcément la valeur ajoutée. Et avec le Covid, elles ont changé totalement de mindset, même si on avait commencé à essayer de les sensibiliser au sujet. Il n'était plus question en fait de défendre leur périmètre, mais il était question de défendre la marque, et notamment sur une période qui a été très dure pour tout le monde, le Covid, il fallait en fait sécuriser la marque à moyen et long terme. Donc elles ont commencé à devenir omnicanal et changer du coup le mindset. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui on a aussi des outils qui sont quand même mis à disposition pour le siège et pour les équipes magasins.
Kevin, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet des outils?
Quand on parle des outils, effectivement. Donc voilà, nous on travaille effectivement avec Bash depuis quelques années. Donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, OneStock, donc nous on est un OMS, OMS pour Order Management System. Le principe, c'est effectivement qu'on accompagne des marques et des retailers comme Bash dans justement cette unification à la fois de la donnée et des stocks. Avec effectivement l'enjeu d'être en mesure d'identifier un client quel que soit d'où il vient, être en mesure effectivement de savoir est-ce que c'est un client VIP, quel est son historique, etc. Et potentiellement proposer des scénarios omnicanaux qui vont être aussi adaptés à l'ensemble des clients. Donc voilà, le rôle d'un OMS c'est vraiment ça, c'est unifier la donnée aussi bien client que stock, avoir cette vue unifiée de son stock qui est effectivement hyper important quand aujourd'hui on vend à la fois via des marketplaces, via du e-commerce, via des magasins, être en mesure de savoir où sont nos stocks aussi bien à l'instant T que des futurs stocks, que des stocks qui peuvent venir également de suppliers, de distributeurs. Voilà, c'est un élément qui est clé parce que ça permet aussi d'orchestrer au mieux ses commandes. Ça veut dire que potentiellement une commande en fonction de sa source, en fonction du panier, enfin des produits qu'on va retrouver dedans, en fonction de son adresse de livraison, etc., on va plutôt l'envoyer à un point de stock ou à un autre. Voilà. Il y a aussi cette notion d'optimisation après de toute l'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment le rôle clé de l'OMS. Alors, il y a d'autres outils qui jouent ce rôle-là. Je pense que sur la partie paiement, l'omnicanalité, c'est aussi un élément clé. Mais voilà, le rôle de l'OMS, c'est effectivement cette unification de la donnée et des stocks d'une manière générale. Ouais.
Ben, est-ce que tu as peut-être des éléments, toi tu vois des changements dans la maturité des clients qui viennent vous voir ces cinq dernières années sur le sujet d'omnicanal,
pardon. Ouais, alors je dirais que tout le monde veut faire de l'omnicanal et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous deux. Je dirais oui, c'est plus facile aujourd'hui parce que les technos sont là et les use cases sont là. En revanche, niveau culturel, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, on a une vraie différenciation entre le retail qui vit d'un côté et le digital qui vit de l'autre. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez une direction unifiée, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. La mode est plus en avance sur l'omnicanal que plein d'autres secteurs d'activité. Je pense que les taux de chiffre d'affaires en omnicanal sont plus élevés largement sur toute la partie fashion. Si on prend de la cosmétique, du bricolage, de la food, on est vraiment très très loin. Aujourd'hui, il y a encore une guerre dans pas mal de boîtes entre la direction retail et la direction digitale, qui en général n'ont pas le même boss. Donc en plus, c'est une question de... comme on aligne tout le monde et on est obligé de remonter jusqu'au CEO ou au CEO pour changer l'organisation et la structure, notamment de la reconnaissance de revenus, des primes, des objectifs, qui sont des vrais sujets. Et aujourd'hui, effectivement, créer une roadmap omnicanal, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on découvrait un peu, on bricolait, c'était plus du test and learn permanent. Aujourd'hui, la roadmap, on l'a. La réalité, c'est quand on arrive quand on a connecté les tuyaux et qu'on a les flux, on a des problématiques, les vendeurs en boutique, les patrons de magasins, les directeurs régionaux, les directeurs de retail par zone, le digital et une grande guerre entre tout le monde. Et en général, on y va un peu en force en se disant ça va passer, ça passe jamais, dans à peu près toutes les entreprises que j'ai vues. Et le sujet aujourd'hui, c'est plus une question de techno qui était le sujet il y a 5 ans, c'est une question de culture et de mindset des entreprises, de faire qu'on ne travaille plus pour le P&L retail, on travaille pour un P&L global. Nous, on passe notre vie dans les comex à expliquer qu'il faut un P&L global et puis des P&L segmentés. Et comme tu le disais, en gros, un client omnicanal, on le voit à peu près partout, c'est entre 75% et 125% de LTV supplémentaire. Donc, il y a un vrai enjeu pour les entreprises, pas forcément sur le chiffre d'affaires, mais plutôt sur la rentabilité de l'entreprise. Et je pense qu'on est tous collégialement dans une idée de créer plus de rentabilité dans les boîtes et pas forcément d'aller chercher de la top line. Donc je pense qu'il y a toujours ce frein que personne n'a réussi à craquer, que les nouveaux entrants sur l'omnicanal n'arrivent pas à craquer comme il y a 5 ans.
Aujourd'hui, si on veut se lancer dans l'omnicanal, selon vous, c'est quoi les bonnes questions qu'il faut se poser pour faire en sorte que la mise en place d'une stratégie de ce type puisse bien se bien se passer. C'est-à-dire, globalement, avant de se lancer dans l'inconnu, c'est quoi peut-être les deux, trois premiers éléments qu'il faut absolument que vous ayez balayés ? Peut-être Ben, si tu veux commencer cette fois-ci.
Ouais, c'est marrant parce que je viens de finir une mission comme ça et on a structuré la mission en trois points. Un, quelle est la vision client ? La première chose qu'on s'est posée comme question pour notre client à nous, c'était quelle était sa vision du client final, quels étaient les besoins du client final. Aujourd'hui, l'omnicanalité, ça recouvre un scope très 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 large. On peut cocher des cases. La plupart du temps, c'est inutile de causer des cases. C'est plus une question de quoi ont besoin en réalité les clients. Donc, scoper à peu près la vision de l'omnicanal du client. Qu'est-ce qu'il attend de la part de la marque ? Le deuxième sujet, ça a été effectivement des questions de tuyaux et de flux. Comment on structure ? Quelle est la bonne stack technologique ? Comment est-ce qu'on va structurer en magasin ? La vision avec notre client, c'est de, à terme, pouvoir abandonner les caisses pour avoir exactement comme dont on parlait tout à l'heure, du paiement tap-to-pay depuis le mobile vers une tablette ou vers un autre mobile pour pouvoir économiser l'espace de la caisse, créer plus de rentabilité dans les magasins. Donc ça nous a emmené, troisièmement, sur deux choses. Un, est-ce que les boutiques en tant que telles sont conçues pour pouvoir faire du ship from store ? Quelle boutique n'est pas faite pour faire du ship from store ? Laquelle est faite pour faire du ship from store ? Est-ce qu'on peut faire du click and collect ? Y a plein d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas le nombre de personnes en magasin pour être capable de gérer des flux click and collect. L'e-réservation, c'est très bien, mais à un moment, on n'encaisse pas tout l'argent, donc on a du stock bloqué. Comment est-ce qu'on pense la chose ? Et enfin, et c'est là où on achappe toujours, c'est pour ça qu'on a la fin de l'émission, est-ce qu'on a une vision PNL omnicanal ou est-ce qu'on a encore des visions de PNL qui sont séparées ? Comment, globalement, par zone géographique, à qui appartient un client ? Est-ce qu'on est toujours dans une logique où le client, c'est un client magasin, c'est un client régional ou c'est un client du digital ? Comment on répartit les reconnaissances de revenus ? Comment on répartit les primes ? Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on structure toutes nos missions omnicanal. Et quelque part, là où il y a 5 ans, la problématique, c'était plus comment on connecte les flux. Je ne sais pas si vous avez fait de l'omnicanal il y a 5 ans, mais c'était assez archaïque comme façon de faire. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de répondre à ces problèmes-là, dont le coût est de moins en moins cher d'ailleurs, et c'est un gros avantage, j'ai moins besoin de CAPEX qu'avant, et qui nous permet en réalité d'aller très vite sur cette aide au choix d'outils et de trouver les bons outils qui dépendent de la taille de l'entreprise. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse sur quels sont les bons outils. Ça dépend de la taille de l'entreprise et du besoin réel que les clients ont en réalité.
Véronica, tu veux développer peut-être sur l'expérience que toi, tu as eue de déploiement sur l'omnicanal ?
Alors, du coup, je rejoins sur les trois questions, enfin les trois points à souligner. C'est vraiment le prisme client, tout ce qui est organisationnel. Comme je vous le disais, d'un point de vue de l'entreprise, c'est assez clair pourquoi faire de l'omnicanal, le pourquoi, il n'est pas à discuter. En revanche, il faut vraiment comprendre quelle valeur ajoutée on va apporter au client et garder ce prisme-là et pas penser que top line, sinon on risque de se planter. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer une expérience fluide, sans couture, de plus en plus rapide. Donc nous, c'était dans cet objectif-là on l'a poussé et que ça peut être périn. Après, on a dû se poser la question, est-ce qu'on était prêt ? Il y avait plein de choses qui peuvent être assez compliquées au lancement. C'est comme le mentionnait Benjamin, est-ce que dans les boutiques, on est capable de préparer les... Enfin, est-ce qu'on a déjà les équipes de la bande passante ? Est-ce qu'on a du coup le stockage, que ce soit et pour les produits et pour préparer les commandes ? Et je ne sais plus si je l'ai mentionné, la bande passante dans la journée. Nos équipes magasins, elles avaient déjà un planning rempli avant l'omnicanalité. Là, on est venu leur rajouter une tâche. On n'est pas venu la remplacer, on est venu leur rajouter une tâche. Donc, c'est une question de priorisation, d'arbitrage. Donc nous, on a différentes solutions omnicanal lancées selon les pays, selon les boutiques et selon les périodes. Donc on a de l'order in store, du ship from store à date. Et c'est pas déployé partout parce qu'on n'a pas la capacité. Donc vraiment, on priorise malgré que le fait que c'est pas lancé partout. Le ship from store aujourd'hui, c'est un tiers de notre CA e-commerce sur Q1, donc c'est énorme. Donc, on a quand même réussi en fait à dépasser ce frein-là, mais il y a quand même encore une question d'arbitrage, de réussir à l'incorporer dans les tâches sans que ça crée des points de friction en magasin. On a une petite anecdote sur justement le Ship From Store. C'est Dan, un de nos CEO, qui est allé en magasin pour aller chercher une pièce pour son entourage. Il a attendu une demi-heure en magasin avant que la vendeuse, qui ne savait pas de qui il s'agissait, il n'a pas du tout voulu la stresser ni la perturber, mais pendant 30 minutes, elle l'a laissé dans la boutique parce qu'elle était en train de préparer des commandes qui devaient partir des boutiques. C'est, donc, en fait, on essaye de fluidifier l'expérience client. Il faut faire vraiment attention un peu aux effets de bord. Donc, il y a vraiment un arbitrage qui est à mettre en place et des règles de priorisation. Nous, ça crée un poste chez Bash. Donc, on a une coordinatrice retail et omnicanal qui, en fait, justement, gère toutes ces règles de priorisation qui accompagnent les magasins. Mais après, il y a aussi le côté humain au quotidien où les vendeuses, il faut qu'elles soient capables d'arbitrer elles-mêmes selon le flux dans le magasin et tout en répondant aux objectifs qu'on leur a fixés. Il y a aussi au siège, donc on en a parlé magasin, expérience client, mais au siège, nous, on a toujours malheureusement deux PNL, un PNL e-com et un PNL e-com et un PNL retail, mais on a quand même une organisation qui change. Donc, il y a un poste qui s'est créé il y a 2-3 ans avec l'arrivée aussi de One Stock et justement de toutes ces nouvelles routines. Mais il y a certains services qui étaient beaucoup plus sensibles à l'omnicanalité. Il y en a encore qui ne le sont pas. Et le PNL reste quand même la référence de Terrence de tous. Donc il y a quand même un changement qui est enclenché chez Bash. Donc on a une organisation omnicanale qui est en train doucement de se mettre en place. Et donc maintenant on est tous beaucoup plus sensibles. Après il y a des services qui sont beaucoup plus sensibles. Comme, enfin moi mon service depuis le début on est sur le prisme client. Donc en fait on est obligé de penser omnicanal. Mais typiquement l'e-com, il y a eu quand même deux niveaux sur l'omnicanalité. Je trouve qu'on est beaucoup plus avancé sur l'omnicanalité, sur le retail avec justement le ship from store, l'order in store, mais sur le site, c'est en train de se mettre en place, mais jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait aucune notion en fait. Du retail, il n'y avait pas forcément accès au stock, il n'y avait pas de store locator. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place. Et c'est aussi grâce à cette direction en fait unifiée, on priorise vraiment l'expérience client plutôt qu'un canal à l'instar de l'autre.
Kevin, peut-être toi, ton expérience, est-ce que tu vois une uniformité dans ce par quoi commencent les retailers ou vraiment en fonction des problématiques, il va y avoir des modules qui vont passer avant les autres ?
Je pense que le chemin de Bash, il est assez classique. Effectivement, c'est quand on commence à faire du ship from store, ça permet de venir unifier le stock, donc implémenter vraiment ce qu'on appelle le core OMS, donc la brique qui va permettre d'avoir cette vision de stock unifiée, d'implémenter des règles métiers, qui est la première étape. Et après, effectivement, Ship From Store qui permet de s'appuyer non pas uniquement sur le stock entrepôt, mais de s'appuyer également sur le stock magasin. Après, effectivement, c'est ce que tu décris très bien. Ça a des impacts à tous les niveaux, que ce soit en change. C'est pour ça que nous, on s'appuie aussi sur l'expertise de cabinets de conseil qui vont accompagner les clients pour leur expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'omnicanalité, ça paraît un peu magique comme ça, on se dit c'est super, on va faire de l'omnicanalité, on va avoir plus 25% de CA en ligne parce que justement on n'a plus de produits en rupture de stock, on va diminuer les coûts de transport, on va diminuer l'annulation de commandes. La réalité, c'est qu'effectivement il y a un chemin et le ship from store, c'est une première étape. L'order in store, pareil, c'est intéressant, mais c'est pas forcément fait, pas toujours en premier. On a plutôt des clients qui vont effectivement plutôt privilégier click and collect, mais une fois Mais une fois de plus, ça dépend vraiment des contraintes physiques en magasin. Est-ce que j'ai suffisamment de vendeurs ou de vendeuses qui vont être capables de préparer dans les temps? Est-ce que j'ai une couverture qui est magasin qui est intéressante, magasin qui est intéressante ou pas? Donc là, voilà, il y a plein de stratégies différentes. Mais oui, le corps OMS, l'unification des stocks via le Chiprom, Et après, effectivement, click and collect, voir order in store, voir réserve, e-réservation. Ouais.
On en a déjà un petit peu parlé, mais globalement, ce que je comprends dans ce qu'on vient de se dire là, c'est que l'un des enjeux principaux derrière, le déploiement d'une stratégie omnicanale, c'est vraiment d'anticiper des problématiques d'efficacité opérationnelle. Et pas seulement se concentrer finalement sur l'outil, même si on est bien d'accord que c'est un point de friction. Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être que vous avez envie de développer là-dessus? On a déjà pas mal parlé, hein, mais...
Nous, on aime bien amener nos prospects ou futurs clients dans des magasins. On va faire des store tours et on leur montre effectivement, comment ça se passe. Souvent en réserve, donc il y a un espace qui est dédié à la préparation des colis. Ça veut dire qu'il faut une imprimante aussi. Enfin voilà, je pense que ça permet aussi de se projeter, d'aller dans du concret et de se dire effectivement voilà le Chiprom Store. C'est compliqué d'aller préparer des colis sur le comptoir au milieu du magasin. Évidemment, on n'a pas envie de ça. On aime bien faire ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller dans des magasins, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, effectivement, se rendre compte, même en termes d'interface, on était à New York au début de l'année, à NRF. On est allé visiter des magasins. C'est toujours intéressant de voir, effectivement, comment les vendeurs et les vendeuses, parce que c'est un élément clé. On en a parlé plein de fois, hein, mais si eux ne jouent pas le jeu, toute la stratégie, évidemment, est mise à mal. On a besoin de ce personnel magasin.
Tu disais tout à l'heure, quand on préparait, Véronica, qu'en plus, vous avez des règles qui diffèrent pas mal en fonction de la typologie de magasin, de la structure de ces magasins-là
ouais.
Aussi.
Donc, en fait, selon la taille du magasin, selon aussi la zone, parce qu'on est implanté à l'étranger, la période pendant les soldes, typiquement, on est amené à désactiver quand même certaines briques de l'OMS parce qu'il y a beaucoup trop de flux clients magasin et on se concentre vraiment sur l'expérience client et on est prêt à mettre du coup potentiellement ce CA de côté. Après, on n'a pas parlé, mais nous, typiquement sur une zone comme les UK, d'avoir l'OMS, ça nous permet en tout cas en attendant d'être prêt, de contourner quand même tous les sujets douane avec le Brexit. Donc vraiment entre chaque pays, période et zone et typologie de magasin et aussi staff magasin parce qu'on peut avoir aussi des moments quand on est retailer d'être en souffrance sur le personnel retail. Donc vraiment il y a c'est pas lisse, c'est vraiment arbitré selon le planning opérationnel, marketing et pour gérer toutes les règles.
Ouais. L'aspect international il est clé. Nous on a des clients, je pense à un client comme Hackett London ou Pepe Jeans qui expédiait tout depuis l'Espagne. Au moment du Brexit, ils se retrouvaient que 8 jours de délai de livraison plus frais de douane, des frais de port qui ont explosé. Et en fait le fait de pouvoir s'appuyer sur le stock, je parlais de New York aussi. Quand on va à New York, on peut aller voir les boutiques de nos clients, donc déjà Caddy, Givenchy, Bache d'ailleurs, je crois aussi. Et effectivement, l'idée, c'est de s'appuyer sur le stock local et donc de ne pas forcément avoir d'entrepôt, mais de se dire, voilà, j'ai ce stock magasin qui est disponible. Donc évidemment, ça, une fois de plus, nécessite d'avoir un magasin qui est adapté, mais ça permet aussi de pouvoir s'appuyer sur ce stock. Et évidemment, c'est un vrai modèle gagnant-gagnant parce que le magasin aussi bénéficie de cette dynamique et des ventes qui qui peuvent être faites sur le territoire, et ça permet finalement à la marque de pas avoir tous les aspects, soit de douane, soit d'entrepôt, de logistique, etc. Quoi. Le but étant aussi, parce qu'on en parle assez peu, pour pas faire trop de greenwashing, mais il y a aussi une volonté de faire en sorte que les produits voyagent le moins possible et donc soient au plus près du client final. Voilà, avec aussi de volonté, de réduire les kilomètres que vont parcourir, les colis.
Alors, on a parlé pas mal d'opérationnel. Là, j'ai envie de revenir un peu aussi aux clients, parce que vous avez toutes mentionné de prime abord que c'était quand même le cœur d'une stratégie. Tu m'avais dit, je crois, Véronica, qu'il y a une différence notable en termes de LTV entre un client omnicanal et un client e-commerce, ou en tout cas pure retail. Pourtant, dans nos échanges, quand on s'est préparé, on s'est aussi dit que pas tellement le client qui était prescripteur d'innovation. Pourtant, au bout, c'est quand même c'est le client qui va utiliser toutes ces innovations, qui va générer le plus de business. Du coup, comment est-ce que vous gérez ces cycles d'innovation et qu'est-ce qui vous apporte à l'expérience du client ? Je sais pas qui veut commencer. C'est un grand projet.
Le client, en effet. Client omnicanal, il est plus en contact avec des éléments assez innovants dans nos magasins, mais c'est pas qu'il est en attente de ces éléments. C'est qu'en fait pour lui c'est normal. Il vient vraiment, que ça soit sur le site ou retail, il veut son produit le plus rapidement possible. Il veut pas qu'il y ait de points de friction, de délai, de complications pour avoir accès aux informations du produit. Donc c'est pour ça que le client omnicanal est en contact toutes les solutions MS qu'on a. C'est aussi lui qui va être en contact avec notre app de clienteling. Donc c'est à nous en fait d'anticiper et de fluidifier cette expérience. Et c'est pour ça que lui, il est plus en contact, mais il est pas. Je dirais pas qu'il est forcément demandeur. C'est vraiment des façons de consommer qui changent, de mindset et des barrières aussi qui se lèvent.
Mais si on se met à la place du client, c'est normal. Le client, il achète sur Amazon, il attend d'un site e-commerce la même performance que sur Amazon. Il achète chez Sephora, il se dit que c'est exactement pareil démonter. Enfin, pour une petite marque, une grande marque. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique où on se dit, ils savent le faire, tout le monde devrait savoir le faire. Un nombre de fois où j'ai entendu un client qui disait, Google le fait, pourquoi on ne le fait pas. On sait tous pourquoi. Mais le client, il s'en fiche, ce n'est pas son problème. La convenience d'acheter chez des grandes marques et chez des grands distributeurs, aujourd'hui, c'est ça que les gens attendent. Je dirais qu'il n'y a pas une attente d'innovation de la part du client, parce que pour lui, l'innovation, c'est bien au-delà de ça. Je parle toujours d'une grande marque de luxe qui en Chine a changé son modèle d'affaires. Aujourd'hui, les boutiques, c'est un Apple Store. Vous rendrez, il n'y a pas de caisse. Vous avez une vendeuse ou un vendeur qui vient vous chercher à l'accueil, qui a sa petite tablette. C'est une grande marque de luxe qui est un de nos clients et qui est pareil qu'Apple. Mais en Chine, ils ont complètement changé leur modèle d'affaires. Et aujourd'hui, ils ont quasiment plus de stock en. Je crois qu'ils ont même plus d'entrepôts. Je crois que les entrepôts, c'est l'ensemble de leurs magasins. Ils font plus que du ship from store. Il n'y a plus d'entrepôts. Le site web, c'est un site web de commande en magasin, slash de livraison en moins de deux heures depuis le magasin. C'est ça, en fait, ce vers quoi les gens veulent aller. les grandes, enfin Amazon a détruit le modèle économique du e-commerce parce qu'ils vous ont dit on peut vous livrer pour 0 euros en moins de 2 heures n'importe où vous êtes dans Paris. Et aujourd'hui les clients qui achètent par ailleurs sur Amazon attendent ça de votre part. Et donc c'est pas vous qui faites l'innovation, c'est les gros, et globalement ils ne suivent que ce qu'ils utilisent par ailleurs, quoi.
Et je pense qu'ils ont une attente de ne pas avoir de point de friction. Ils n'attendent pas des choses révolutionnaires. Ils veulent juste en fait avoir leur produit.
Juste, facile. Tu voulais rajouter quelque chose, Kevin ?
Non, je pense. Enfin, c'est très bien résumé. Après, je pense que c'est aussi lié à la.